ce n'est pas un exposé de Georges Balandier, ni d'ailleurs un débat entre Georges Balandier et moi. Georges, pour moi, reste, pour parler dans les langues d'Afrique centrale qu'il connaît si bien, un Mbuta. Donc un aîné, un vieux dans le bon sens de ce mot. Et donc je pense que nous avons beaucoup à apprendre de lui. Et lors de la préparation de cette conférence internationale, nous avons pensé qu'il y avait un certain nombre de questions qu'on pouvait ou qu'on devait lui poser. Et depuis hier, je me dis qu'il y a en effet un certain nombre de questions qu'on doit lui poser sur ce dont nous débattons autour de la fin des empires. L'exposé de Didier Galibert et d'Alessandro Tiriulzi nous ont conduit à parcourir un temps long de plus d'un siècle, et je voudrais qu'on resserre un peu notre attention sur le moment de la fin des empires et qu'on restreigne aussi un peu l'espace sur l'Afrique que Georges a étudiée et nous a fait connaître. Ce n'est pas que Georges Balandier soit allergique à la longue durée, puisque son concept de situation coloniale entend embrasser la totalité de l'expérience coloniale et que, après la sociologie actuelle de l'Afrique et les Brazzaville noirs, il nous a commis un ouvrage, La vie quotidienne dans le royaume du Congo, du XVIe au XVIIIe siècle, qui montrait bien qu'il y a chez lui cette attention au rythme, au pluriel, bien sûr, de la durée, et notamment à la singularité d'un certain nombre de moments privilégiés. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ses travaux les plus récents sur les processus que d'aucuns appellent la mondialisation témoignent de cette attention au rythme du temps et à la manière dont les choses, les gens, les dispositifs institutionnels et l'action des acteurs sociaux et politiques évoluent dans le temps. Vous ne serez donc pas étonné qu'un historien commence justement à lui parler du temps. En effet, Georges Balandier est arrivé en Afrique en 1946, un moment on ne peut plus significatif par rapport à nos débats, puisque c'est l'année de l'adoption, après tous les rebondissements que vous connaissez, de la Constitution de la 4e République, mais aussi sur place en Afrique, de l'élection législative qui va amener à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République, le Sénat, un certain nombre d'élus africains, non pas des individualités isolées et noyées dans cette masse, comme l'avait été Blaise Diagne ou Galandou Diouf, mais de véritables groupes de parlementaires capables et désireux de peser sur la prise de décision. C'est à Dakar qu'il arrive, non loin en définitive de Bamako, par le chemin de fer fameux dont la grève des cheminots va porter au devant de l'actualité. Et en 1946, c'est aussi, bien sûr, l'année de la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain. J'imagine aussi que pour un jeune sociologue arrivant à Dakar en 1946, il a dû entendre les échos de Tiaroy, à la fin de l'année 1944, et nous savons que son engagement intellectuel et sa passion pour les causes justes l'ont rendu bien sûr très sensible à la gestion par le pouvoir colonial de l'insurrection de Madagascar en 1947. C'est donc un moment où le débat sur l'Empire, qui avait été longtemps limité, sinon enfermé dans les cénacles politiques intellectuels très étroits, va devenir un débat public, va envahir l'espace social et donc convoquer en quelque sorte les intellectuels et les spécialistes des sciences sociales à dire un mot sur ce moment particulier. Lorsque, depuis hier, nous évoquons la fin de l'Empire, nous en parlons souvent en termes de rupture. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible de délimiter cette rupture ? Faut-il faire du temps de la fin des empires et des indépendances, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises hier, l'une des conséquences, et peut-être la conséquence la plus grande du conflit mondial, puisque nous avons vu que la Première Guerre mondiale a eu pour effet immédiat l'effondrement des vieux empires européens, russes, austro-hongrois, allemands, ottomans, et que bien sûr la Deuxième Guerre mondiale a comporté dans ses effets, mais jusqu'à quel point et avec quelle détermination et quel cheminement l'effondrement des empires coloniaux en Afrique. Le moment où Georges Balandier arrive en Afrique est aussi le moment où, notamment sous l'influence d'un livre qui a eu son temps, de Daniel Halévy, Essai sur l'accélération de l'histoire, qui est de 1948, où on réfléchit précisément sur l'accélération de l'histoire, dont la fin des empires coloniaux serait l'une des manifestations les plus spectaculaires. Mais dans les discours de cette époque, moi, je suis étonné par d'autres discours. Je pense notamment à ce discours de Frantz Fanon au premier congrès mondial des écrivains et artistes noirs, où, pour évoquer la fin des empires, Fanon parle plutôt de ce corps à corps prolongé entre la culture hégémonique, mais spasmée, imparfaite du colonisateur et la culture du colonisé. Et que donc de mimétisme, ce qui définirait une période, au rejet, ce qui en définirait une autre, on arrive à ce dépassement qui conduit nécessairement au processus de libération nationale. Je pense aussi qu'en raison de ses expériences de terrain, et je lui pose la question à partir de mon expérience, moi personnellement j'ai été très sensible que dans le moment le plus paroxystique d'une des indépendances africaines, en 1960 à Léopoldville, Patrice Lumumba en quelque sorte minimise le moment de l'indépendance pour au contraire en faire l'aboutissement en quelque sorte inévitable d'une lutte très longue qui aurait commencé avec la colonisation elle-même. Donc, mon interrogation, Georges, est de savoir, est-ce que dans l'histoire relativement longue de la colonisation, comment pourrions-nous faire pour délimiter le moment particulier et le temps particulier qui serait celui de la fin des empires ou des indépendances?
Merci, Ilikia. Ces propos sont trop gentils à mon égard, trop indulgents plutôt. Mais vous savez quel lien nous associe et depuis longtemps. Alors, je voudrais répondre à votre question, comme vous venez de la poser. C'est ce que je m'étais proposé de faire pour ouvrir notre conversation. Il y a sur le programme deux titres, les indépendances africaines et puis la fin des empires, point d'interrogation. Et je dirais que pour moi, qui ai eu une longue expériences, des essais différents des colonisations, le point d'interrogation est peut-être ce qui importe le plus. Ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie d'abord que les empires laissent après eux une espèce d'obsession. On n'en a pas fini, on parle encore de la décadence de l'Empire romain. C'est tout de même loin derrière, n'est-ce pas ? Mais de même, on a cette réaction à l'égard des empires disparus plus tardivement, notamment l'empire du milieu, c'est-à-dire du milieu de l'Europe, l'empire austro-hongrois. On a la même nostalgie à l'égard d'autres formations impériales. Moi, je suis d'une région, la Lorraine, où des gens modestes et humbles avaient encore la nostalgie du petit caporal et de l'espace impérial qu'il avait créé en Europe et au-delà même de l'Europe. Alors, il faut bien partir de là, de cette espèce d'obsession que les empires continuent à laisser présent, non pas dans les esprits de ceux qui les ont vécus, mais dans les mémoires de ceux qui viennent après. Alors, ce qui me frappe peut-être, si j'essaie de dire cela autrement, c'est le fait que si l'on peut définir une fin des empires, une fin, comment dire, légaliste des empires, on peut décréter qu'à partir de 1960, l'impérialisme français est achevé et que les pays qui étaient constitutifs de son espace, se sont libérés, sont devenus indépendants. Les choses ne sont pas si simples. Les empires peuvent trouver, la fin des empires peut être datée légalement, historiquement, si l'on veut. Si on a un historien qui ne se pose pas trop de questions, comme l'a fait Ilikia, à propos de la temporalité, parce que le temps des empires est un temps bien particulier. Alors, les empires peuvent disparaître sous cette forme, mais ce qui peut se transformer, ce qui subsiste, c'est la relation, c'est le système de relations, c'est la relation de dominant à dominé. Et cette relation-là, elle peut se transformer, elle peut prendre d'autres formes. Un empire fini, mais des rapports de dominant à dominé, des rapports de dépendance et de domination se constituent, éventuellement se reconstitue ou se constitue ailleurs. Moi, ce qui me frappe, c'est le fait qu'il y a deux conséquences de ce que je viens d'évoquer à l'instant. La première conséquence, c'est qu'il y a une sorte, comment dire, d'inachèvement de la fin des empires, si on peut se permettre cette espèce de formule. On semble ne jamais en finir avec la fin des empires parce qu'on la porte en soi, on la porte en mémoire avant de la on la porte en soi et ensuite on la porte en mémoire. Et puis il y a aussi le fait que une relation, un système de dépendance-domination peut reparaître sous d'autres formes. Et l'Afrique le sait, et elle est en train de s'en défendre parce que d'autres formes, avec d'autres partenaires, tentent de s'ébaucher, n'est-ce pas ? Alors, je dirais que mon expérience m'a conduit à cette espèce de réflexion sur le point d'interrogation, sur la question que vous posiez, Lydia. Y a-t-il une date ? Non, il est très difficile, sinon légalement, si on s'en tient aux décisions que le dominant prend de ne plus exercer en apparence sa domination, mais pour le reste, il y a transformation possible et il y a surtout, je pense, importation dans les mémoires et importation dans la métropole sous d'autres formes, dans ce qui fut la métropole sous d'autres formes, notamment sous la forme de la mémoire de l'immigration et des demandes des immigrés. Donc là, vous le voyez, les choses ne peuvent pas être vues d'une manière simplifiée. Alors, si vous me permettez, Ilikia, encore, je dirais que ma propre mise en perspective, vous avez évoqué ma longue présence en Afrique, ma longévité relative, ma séniorité par rapport aux critères africains, mais je dois dire que c'est aussi, comment dire, une expérience de décolonisation différente. Moi, ce qui me frappe, c'est que pas plus on ne peut employer le singulier pour parler de l'Afrique, pas plus on ne peut employer le singulier pour parler des colonisations et des décolonisations, n'est-ce pas ? Et si je m'en tiens à ma propre expérience, qui est due au hasard de la désaffectation des terrains de recherche choisis, je dirais que j'ai éprouvé dans mes rencontres, dans mes prises de position, dans mes solidarités pour les indépendances, j'ai éprouvé cette diversité des chemins qui mènent aux indépendances. J'ai commencé par le Sénégal, mais le Sénégal reporte immédiatement à quelque chose de bien particulier dont il est encore porteur, une histoire longue, qui est une histoire de ville d'ailleurs, avec Saint-Louis et Dakar plus tardivement, 19e siècle, mais c'est aussi une histoire, comment dire, de relâchement de la domination coloniale qui est tentée à diverses reprises. Avec le statut particulier des quatre communes, c'est-à-dire Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée. C'est aussi le simulacre d'une représentation au Parlement français. Vous venez d'y faire illusion avec députés. Mais c'est aussi le lieu où une force intellectuelle s'est constituée très tôt et a été très réactive à la situation coloniale. Une situation coloniale qui avait été éprouvée d'ailleurs en longue durée, puisqu'elle a commencé dès le XVIIe siècle dans le cas du Sénégal. Alors, c'est ce qui explique peut-être que j'ai été lié là à une indépendance menée par des intellectuels qui combattaient pour l'indépendance de leur pays, la reprise d'initiative dans le domaine de leur histoire et la reprise d'initiative dans le domaine de leur propre gestion. Voilà. Et c'est ce qui m'a conduit à être lié à Présence africaine, à Senghor, à Aliou Diop et à Senghor, mais aussi en débat avec Cheikhanta Diop. Cheikhanta Diop, qui pour moi a une importance au Sénégal toute particulière, puisqu'il est un peu le Michelet du Sénégal. D'une certaine manière, il a cette force. J'ai été membre du jury de sa thèse de doctorat en Sorbonne, et je vous avoue que ça a été un événement. Et un événement très remarquable, un événement qui a marqué les esprits, cette espèce de passion africaine qui a explosé lorsque le docteur Cheikhanta Diop a été proclamé, eh bien, elle est pour moi un souvenir très, très fort, très intense. Donc là, c'est quelque chose de particulier. J'ai aussi bien été lié d'ailleurs à Mamadou Dia, dont j'ai essayé de protéger la fin douloureuse que lui a imposée Senghor. Mais bon, voilà une première expérience. La deuxième expérience, c'est la Guinée. Il se trouve que j'ai été affecté en Guinée pour des raisons qui sont purement accidentelles d'une part et administratives de l'autre. Bon, j'ai été affecté en Guinée et je me suis trouvé lié très rapidement à quelqu'un pour qui j'avais une grande affection parce que devenu directeur du centre IFAN de Conakry, j'avais pour proche collaborateur et pour ami immédiat, pour contact immédiat, pour rapport humain immédiat, n'est-ce pas, Madera Keïta. Madera Keïta, qui appartient à la dynastie, à la descendance des Keïta, des fondateurs du Mali, qui était proche de Modibo Keïta, premier président de l'indépendance malienne. Et là, Madera a été en quelque sorte mon déniaiseur politique. Le Sénégal m'a mis dans ce milieu intellectuel fort que j'évoquais à l'instant, mais Madera Keïta à Conakry a été mon déniaiseur politique dans le sens où il m'a entraîné dans les réunions proprement africaines, où en principe je n'avais qu'une place difficile à créer parce que les relations colonialistes étaient encore très fortes au moment où je me trouvais à Conakry. Et là, à partir de Madera Keïta, j'ai été lié d'une manière très, très forte à Sékou Touré. Et Sékou Touré, c'est une autre voie, un autre moyen d'accès à l'indépendance africaine. Ça passe par la Confédération des travailleurs africains que Sékou Touré présidait. Quand je l'ai connu, il avait déjà cette puissance par le syndicalisme, par le Parti communiste qui appuyait ce mouvement syndical africain, par aussi l'influence de l'Union soviétique que Sékou Touré avait connue parce qu'il avait pris une partie de formation là-bas, de formation politique là-bas en Union soviétique. Alors là, c'est une autre voie, c'est la radicalisation par le passage à gauche et par l'affirmation que le peuple a le droit de demander le plus possible. C'est une forme de radicalisation qui accompagnait, très curieusement, il faut bien le dire, une forte personnalisation du pouvoir. Sékou Touré avait un pouvoir direct, charismatique, un pouvoir d'influence sur les foules. C'est pas, j'ai le souvenir de ces grands rassemblements qui se tenaient devant le palais présidentiel, ancien palais du gouverneur d'ailleurs, de la Guinée coloniale. Et là, il y avait une relation singulière qui se créait entre le symbole, d'autant plus que Sékou Touré évoquait Samori Touré, n'est-ce pas, le conquérant du Nord, le conquérant appartenant à l'univers mandé. Alors, il y avait là cette indépendance qui poussait autrement. Il poussait par le radicalisme, par l'influence du syndicalisme, par des demandes que l'on peut dire, que l'on doit dire des demandes de gauche, et surtout par une personnalisation très marquée. Je dois dire que j'ai tenté, lorsque l'événement de Conakry a créé l'indépendance, De Gaulle passant et disant, voyant les demandes d'indépendance transcrites sur des calicots, sur des pancartes, les porteurs de pancartes demandent l'indépendance, qu'ils la prennent. Et le qu'ils la prennent a été brutal, a été violent, parce qu'il a signifié la mise à l'écart de la Guinée. Toute rupture d'aide à la Guinée, d'aide administrative, d'aide financière, d'aide économique, n'est-ce pas ? Il y avait là, tout d'un coup, cette façon de punir celui qui avait osé redonner l'initiative historique, l'initiative politique et l'initiative culturelle à son peuple. Je dirais que Sékou Touré, lorsque je l'ai revu un peu plus tard, n'est-ce pas, m'a révélé à quel point il avait, tout à l'heure, notre collègue a évoqué le mal d'Afrique. Eh bien, Sékou Touré avait le mal de Paris. Et combien de fois au palais, il m'a demandé des nouvelles de Paris, etc. Donc, vous le voyez, tout cela, c'est un peu anecdotique, mais ça signifie que les indépendances ne sont jamais une coupure brutale, une sorte de radicalité dans la séparation, sauf lorsque De Gaulle a décidé que la Guinée devait faire cavalier seul. Mais encore, il y avait tous ceux qui étaient passés par la Guinée avant et qui avaient un attachement pour le pays, sinon un attachement pour Sékou Touré.
Et dont beaucoup d'ailleurs sont partis en Guinée ou sont restés en Guinée pour soutenir l'effort du nouvel État.
C'est exact.
Et oui, De Gaulle, lui, on parlait de la fin des empires. De Gaulle, pour la Guinée, parlait de sécession.
Ah oui, complètement. Il ne parlait pas de l'Empire. Bon, il jouait encore la communauté à l'époque, n'est-ce pas, la communauté française, le sauvetage d'un semblant de relation prédominante. Mais il est sûr qu'il a vu cette affaire comme une affaire de pure sécession. D'ailleurs, vous savez, cette sécession était... Je livre là cette anecdote que certaines et certains d'entre vous connaissent certainement, mais cette sécession a même donné lieu à une sorte d'interprétation de la rupture par l'accident. Le ministre de la France d'Outre-mer d'alors aurait gardé en poche la lettre, il aurait oublié de la transmettre à De Gaulle suffisamment tôt, la lettre que Sékou Touré avait fait passer, où il expliquait qu'il prendrait l'indépendance, mais que ça ne signifiait pas la séparation. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais il y avait cette anecdote qui montre assez combien l'arrachement a pu être un arrachement qu'on a décrété accidentel, et accidentel de part et d'autre, d'ailleurs. Sékou Touré, oui, a dit qu'il n'avait pas, qu'il avait informé et qu'il ne s'attendait pas à cette réaction soudaine, immédiate de De Gaulle passant à Conakry, mais les Français aussi, qui ne s'attendaient pas à une rupture dramatisée, à une rupture mise en scène.
Je voudrais qu'on reste un peu dans ces portraits d'acteurs. Est-ce qu'on peut descendre plus au sud? Voilà. Dans Afrique ambiguë, vous donnez un portrait assez saisissant de Léon Ba et voir un peu dans une configuration coloniale différente à l'intérieur du même empire, les personnages et les acteurs que sont... Léon Ba pour le Gabon et Fulbert Youlou pour le Congo, en comparaison avec les figures de l'Afrique de l'Ouest que vous venez de dresser.
Alors, bon, il dit qu'il y a, j'allais passer à cette expérience qui fut la mienne, dans les deux cas d'ailleurs. Et là, il s'agit d'une situation très différente. Il n'y a pas l'intellectualisation très forte de la demande comme au Sénégal. Il n'y a pas la radicalisation de la demande par le syndicalisme et la gauche politique, l'ultra-gauche politique, si l'on veut. Pas. Mais il y a ici tout autre chose, et alors, qui a été l'objet de mes études et de mes inconforts aussi, d'ailleurs. Il y a là une innovation dans l'univers du sacré, dans l'univers du religieux, qui sert d'abord d'expression au mécontentement des paysanneries, à l'insatisfaction des paysanneries, au refus par les paysanneries d'Afrique centrale de continuer à subir, de continuer à ne pas être associés, comme disaient certains des chants religieux que j'ai pu entendre à Brazzaville, dans la région de Brazzaville, à ne plus subir cette mise à l'écart de la table des richesses que l'Occident produit et en utilisant l'Afrique, mais sans lui mettre quelque chose sur la table en partage. Il y a là quelque chose de différent. Alors, au Gabon, comment est-ce que ça se présente? Ça s'est présenté sous deux formes, Ilikia, que vous connaissez tout autant que moi, ou peut-être même mieux que moi par l'historien qui a poursuivi des recherches sur documents et ensuite poursuivi des recherches au-delà de celle que j'avais initiée. Il y a eu deux mouvements au Gabon. Il y a eu le mouvement des villages, de rénovation des villages, conduit par le député Fang Obam. Obam avait lancé une initiative de renouvellement des villages, demandant aux paysanneries de prendre elles-mêmes l'initiative de bâtir de modestes écoles, de bâtir de modestes dispensaires et d'ouvrir le pays par des voies, par des routes, des chemins que l'on demandait aux paysans de réaliser. Là, il y avait, si vous voulez, la reprise moderniste du pouvoir de transformation du milieu rural, de la paysannerie. Et puis, il y a l'autre partie, l'autre choix, qui était lié au mouvement Bouiti, c'est-à-dire un syncrétisme, enfin, si l'on peut parler ainsi, un syncrétisme religieux, à une religion d'emprunt, qui était d'ailleurs empruntée par les Fang, qui l'ont répandue et l'ont transformée en outil politique, le Bouiti, qui a été emprunté à des gens de la zone forestière voisine, et qui a été... livré au travail de transformation sous l'effet du catholicisme et sous l'effet de la revendication politique. Et ici, c'est là où se trouve celui qui devient le premier président du Gabon indépendant, plus digne que celui qui lui a succédé, Léon Ba. Léon Ba, que j'ai pu rencontrer, mais dans des manières singulières, à l'époque de la fin de colonisation. Et autant que je m'en souvienne, c'était à l'époque Mesmer gouverneur. Léon Ba était commis dans une grande factory, une grande entreprise commerciale d'import-export de la région. Et Eliomba était la bête noire, si j'ose dire, de l'administration coloniale. On lui reprochait de faire de l'agitation, ça, c'est d'une banalité attristante. On lui reprochait de conduire une sorte de politique personnelle par le truchement de son importance dans le culte nouveau, le culte du Bouiti. Et effectivement, Léomba a pu utiliser cette arme-là comme instrument, comme levier, qui lui a permis de maintenir, dans un Gabon qui était en grande difficulté d'ailleurs, de maintenir une pression et une demande politique clairement définie. Il est devenu d'ailleurs le premier président, je vous l'ai dit à l'instant, du Gabon indépendant. Avec quelque chose que j'ai observé ensuite, bien plus tard, après la mort de Lumba, quelque chose qui m'a révélé à quel point il avait compté comme un personnage puissant, mais puissant par des moyens qui ne sont pas ceux du combat politique clair, ordinaire, si j'ose dire, banal. Après la disparition de Lumba, la mort de Lumba, son mausolée a été créé, construit, à Libreville, au cœur de la ville. Et ce qui était très frappant, c'est de voir que les gens, au début, n'est-ce pas, contournaient cet endroit, ayant le sentiment qu'une grande puissance, celle qui avait mené à l'indépendance d'ailleurs, se trouvait là, et que cette grande puissance, elle pouvait être encore redoutable. Alors ça, c'est l'ambiguïté de ces cultes tels que le Bouiti. Alors, il y a l'autre aspect qui est plus proche de chez vous, qui est l'aspect Brazzaville. Là, j'ai été conduit à étudier un autre processus d'accès, de revendication paysanne, d'accès à l'indépendance. C'est le processus qui s'est créé à la faveur de l'innovation religieuse, des nouvelles religiosités, si l'on veut employer un mot facile qui vient immédiatement à l'esprit. C'est-à-dire le mouvement qui a été initié du côté Brazzaville par André Matsoua, qui avait eu une expérience avant en France et qui en avait tiré le sentiment d'une nécessaire politique de gauche pour permettre l'accès à l'indépendance, et qui ensuite, parce qu'il est mort en prison, il est mort pendant la guerre, des années de guerre, en prison, il est devenu une sorte de symbole sacré de la revendication d'indépendance. Et le mouvement matsouaniste a pris un aspect religieux qu'il n'avait pas au départ. Au départ, c'était un aspect beaucoup plus politique. Alors que de l'autre côté, il y avait Simon Kimbangu. Et le kimbanguisme est devenu une très grande force politique et une force qui a joué. Je pense que Elikia connaît ça beaucoup mieux que moi et on a vécu les suites, si j'ose dire, pour ne pas dire j'ai pas dit les séquelles, j'ai dit les suites, n'est-ce pas? Simon Kimbangu, qui a été le personnage sacrifié par l'autorité belge, qui a pris l'initiative, lui, ancien catéchiste modeste du protestantisme colonial belge, il a pris l'initiative de revendications religieuses. Les chants religieux demandaient, annonçaient le royaume du sang rouge, par exemple. Ces chants que j'ai collectés, n'est-ce pas, demandaient l'accès au secret de la puissance, n'est-ce pas, demandaient, exprimaient le sentiment du sacrifice consenti, fait pendant la période coloniale. Il y avait tout cela qui se disait et qui s'organisait par des moyens purement religieux, de petites initiatives prises ici et là en diffusant des paroisses. C'est pas... Et le kimbanguisme, il faut bien le dire, et ça, Ilika, vous le savez davantage encore, le kimbanguisme, après l'indépendance, après le sacrifice de Patrice Lumumba, le kimbanguisme est devenu, d'une certaine manière, une religion nationale telle que la voulait Mobutu, qui a sacrifié d'ailleurs le primat de Kinshasa.
avec d'ailleurs ce discours qui construit toute une mythologie nationale en disant que dès 1921, Simon Kimbangu avait annoncé qu'un jour le blanc serait noir, le noir serait blanc, et que donc Lumumba d'abord et Mobutu ensuite, quoique Mobutu ait tué Lumumba, réalisait cette prédiction. Je voudrais qu'on reste encore dans ces portraits et ces situations, puisque vous étiez en même temps très attentif à ce qui se passait dans l'Afrique anglaise, notamment en Gold Coast, au Ghana et au Kenya. Moi, je me souviens que, étudiant et lisant encore très mal et très peu l'anglais, j'ai été l'un des premiers lecteurs de la traduction française au pied du mont Kenya et de la préface que vous lui avez donnée. Et comment dire, c'est une expérience totalement différente de celle de l'Afrique française, avec une violence énorme dans la guerre des Mau Mau, des confiscations foncières.
Je vais me dépayser.
Pensant à Jomo Kenyatta, je pense à l'une des choses que vous dites dans Afrique ambiguë, parce qu'on est là dans un mouvement de longue durée, que les Africains ont toujours su ce qu'ils voulaient, dites-vous, c'est nous, Européens, qui, par aveuglement, orgueil ou mépris
et intérêt,
avons toujours cru que eux ne savaient pas ce qu'ils voulaient, mais que nous savions ce qu'ils voulaient et que nous pouvions le faire à leur place.
Oui.
Jomo Kenyatta.
Oui. Jomo Kenyatta. Je dois dire que je n'ai pas connu Jomo Kenyatta, mais c'est Maspero, l'éditeur français, qui m'avait demandé de rédiger une préface pour la traduction française, qui a été reprise d'ailleurs, je crois, il n'y a pas tellement longtemps, de Facing Mauritania. Ce qui m'importait là, c'était le fait que Kenyatta était à la charnière d'une demande politique en langage que je dirais de modernité politique, et aussi à l'origine d'une demande politique qu'il avait tirée de la tradition qu'il connaissait bien, puisqu'aussi bien il avait eu un doctorat d'Oxford, je crois, ou de Cambridge, en anthropologie. Donc là, il y a les deux sources. Bon. Et puis il y a derrière ce que vous avez évoqué, ce mouvement que les Anglais n'ont pas compris, ni au départ, ni pendant sa réalisation, et qui finalement les a conduits à céder. Le mouvement Mau Mau, n'est-ce pas, qui pour eux, c'est étonnant, mais ils ne pouvaient pas donner d'interprétation réelle du mouvement Mau Mau. Ils ne voyaient, comment dire, que des infirmités exotiques de la revendication, si j'essaie de dire quelque chose qui soit relativement fort. Il ne voyait que c'est une insurrection très primitive. On fait croire aux gens que s'ils réalisent les rites suffisants, les protections suffisantes, s'ils obtiennent les protections suffisantes, les balles de l'armée anglaise, de l'ordre colonial, ne les toucheront pas. Et on vivait sur ces choses, et puis sur l'idée, il y a une sauvagerie qui tue du blanc, bon, et qui vise à déposséder le blanc. Mais rien n'a été analysé, sinon après coup. Et notamment dans une thèse que j'avais dirigée avec un africaniste hollandais, Wichtenhuis, que vous connaissez certainement. Donc là, il y a cette chose. Mais Kenyatta est à la fois... Bon, il sait interpréter Mau Mau. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse lui imputer de continuer, de diriger tout cela. Ça n'est pas cela. C'est beaucoup plus une initiative populaire née de la paysannerie, n'est-ce pas, qui s'est développée sous cette forme, qui a peut-être utilisé certaines des analyses de Jomo Kenyatta, mais ça n'est pas Kenyatta qui a été le chef d'orchestre de ce mouvement, comme on a peut-être pu le dire.
Au mieux, il a en quelque sorte tiré les marrons du feu.
Vous avez raison. Et, c'est quand même le sens d'un grand politique de savoir utiliser la conjoncture, de savoir en tirer profit à son avantage, à l'avantage des objectifs qui sont poursuivis. Alors, il y a l'autre aspect qui est Kenyatta, Kwame Nkrumah, c'est-à-dire la Gold Coast.
Pour qui, je vous avoue que j'ai tout compte fait une solide admiration, parce que je trouve que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, on le trouve chez lui, à la fois l'élaboration intellectuelle, la capacité de mobilisation de couches populaires, paysannes, urbaines, masculines, féminines, et aussi cette espèce de radicalisation sereine qui fait qu'on a là affaire à un de ces personnages singuliers que des contextes particuliers permettent de voir émerger.
J'ai connu deux des figures politiques qui sont affrontées. Kofi Bouzia, qui était l'opposant de Nkrumah, le sociologue, d'origine, je pense, appartenant à une famille religieuse, cléricale, d'une certaine façon, et l'universitaire typique produit par les grandes universités anglaises, Cambridge ou Oxford, en la circonstance. Et puis, Kwame Nkrumah. Mais Kwame Nkrumah, je l'ai connu indirectement par Sékou Touré, car ils ont fini par être liés, puisque Kwame Nkrumah s'est replié en Guinée après sa déchéance et est mort, autant que je m'en souvienne, est mort en Guinée à Conakry. Kwame Nkrumah, c'était autre chose. C'était une revendication qui avait beaucoup de force intellectuelle, beaucoup de présence physique. On oublie que les indépendances, ça s'arrache aussi avec avec l'outillage du symbolique, de l'image que l'on porte, et de la capacité d'avoir de l'influence, de la capacité de produire des résultats. Kwame Nkrumah avait cette force. Et il suffisait de le voir, je l'ai rencontré quelquefois dans son palais présidentiel, et il suffisait de le voir pour savoir qu'il y avait là une force qui était reconnue et qui semblait faire du palais présidentiel un lieu particulier, n'est-ce pas, un lieu où il y a du sacré en même temps que du politique. Kwame Nkrumah défendait alors lui non pas seulement l'indépendance qu'il a acquise d'ailleurs très tôt, puisque aussi bien le Ghana est devenu indépendant avant 1960, hein, à la fin des années 50, 57 je crois.
57.
Et Kwame Nkrumah défendait essentiellement le panafricanisme, c'est-à-dire l'issue des indépendances les indépendances ne se jouent pas en solo, en solitaire. Les indépendances se jouent, se demandent, se revendiquent, se prennent ensemble, avec le projet d'affirmer une solidarité africaine, une unité du continent africain qui n'est pas encore réalisée, mais qui est l'objectif le plus avancé politiquement et qui implique aussi, d'ailleurs, des rapports avec le monde africain d'origine, noir des pays extérieurs, notamment des États-Unis d'Amérique. Alors là, c'était un autre discours qui a influencé, d'ailleurs, Sékou Touré, comme je l'ai pu l'observer à quelques reprises. Mais ensuite, ce discours de panafricanisme n'a pris en réalité qu'en Afrique du Sud, après coup, parce qu'il s'est branché sur la réaction contre la discrimination d'abord, l'apartheid légalisé ensuite. Hein. Kwame Nkrumah avait ce radicalisme qui faisait qu'il avait une vision peut-être trop grande, trop élargie, de ce qui était à faire, et que du coup, il était un peu abandonné par ceux qui avaient des représentations soit plus nationales, soit plus régionales de la conquête à réaliser.
Oui, alors, je suis très content que vous ayez évoqué toutes ces figures et tous ces rapports de force, parce que jusqu'ici, nous avons beaucoup discuté plutôt des processus institutionnels, des aménagements et des réaménagements qui permettent de passer à des situations impériales dures, justement à ces fameuses fins d'empire qui ne sont pas exactement des fins. Vous savez que chez les historiens, il y a une pratique qui est aujourd'hui bien installée, qui consiste à faire de l'ego-histoire. Alors, je ne vais pas vous demander de faire de l'ego-histoire pour un sociologue, mais tout de même, ce contexte très, très particulier que nous venons de voir ensemble est à mettre en rapport, mais jusqu'à quel point, dans quelle mesure et sous quelle forme, avec toutes ces innovations conceptuelles, méthodologiques que vous opérez dans les Brazzaville noirs et la sociologie actuelle de l'Afrique. Comment faites-vous aujourd'hui, après coup, la relation entre ce travail important de production d'une sociologie dynamique et ce contexte, ces relations dans lesquelles vous avez travaillé pendant les années 50?
Oui, alors ici, j'avais prévu, si, pour l'organisation de notre conversation, j'avais prévu une sorte de troisième partie, si vous voulez, après le préambule sur le point d'interrogation et les expériences qui portent du vécu. J'avais prévu de montrer que la mise en contestation de l'ordre mondial par les décolonisations, la fin des empires, est aussi une mise en contestation des savoirs. Il est très significatif que les années 1960, que le début 1960, la fin des 50 et le début 1960 du siècle passé, donc, marquent le passage aux indépendances, mais en même temps la création de toute une série d'institutions et de préoccupations qui deviennent, qui sont nouvelles pour l'époque. Je veux dire les area studies, par exemple, cette idée que les espaces de civilisation autres que l'Occident, ce que l'on pourrait appeler l'outre-Occident, n'est-ce pas, sont des espaces de civilisation qui doivent être étudiés, connus et desquels on doit apprendre. Dans le cas de l'africanisme, c'est à la fin des années 50 aussi qu'ont été créés ici, en France, j'entends, vraiment un africanisme possible, un africanisme qui n'est pas celui qui véhicule par les leaders intellectuels des indépendances ici et là, n'est-ce pas, mais un africanisme qui se veut marqué de la constitution d'un savoir et d'une carrière de recherche, d'un projet de recherche personnelle. N'est-ce pas, c'est ainsi qu'est né, alors que sont nés les aires culturelles à l'EHESS et puis le centre d'études africaines que j'ai pu créer après être entré à l'EHESS comme directeur d'études à l'automne 1954. Ben, le centre remonte à 1957 en gros. Mais je dirais que pour ce qui me concerne, j'ai voulu chambouler la façon dont le savoir sur l'Afrique, dont le savoir par l'ethnologie se constituait. Tout simplement parce que j'avais reçu une formation d'abord, il faut bien le dire, une formation de sciences sociales qui, en France, n'existait quasiment pas. On sortait de la philosophie ou de l'histoire ou des lettres et on essayait de se débrouiller pour devenir spécialiste des sciences sociales. La plus grande spécialisation que j'ai pu prendre, c'est au fond au Musée de l'Homme et à l'Institut d'ethnologie, parce que là, il y avait tout de même une expérience qui était rapportée. Il y avait la considération d'univers culturels et sociaux autres, différents des ailleurs. Et il y avait là des gens qui, bien ou mal, avec un tantinet ou beaucoup de colonialisme, venaient s'exprimer et donnaient un peu le goût de ces civilisations et ces réalisations historiques d'ailleurs. Mais il a fallu tout créer. Mon entrée à l'EHESS, elle a été voulue. Elle a été voulue parce que je venais de soutenir ma thèse et mes thèses, c'était à l'époque des deux thèses de doctorat à faculté des lettres, et que le jury avait répondu à cette idée que mes thèses bouleversaient un peu l'univers et qu'il fallait sans doute me donner une chance de mettre cela en cadre institutionnel. Ça m'a valu l'appui à la fois de Braudel, de Lucien Febvre, de Braudel, des historiens, je dois le dire. Parce que j'ai une affinité, comme vous le savez.
Mais bien sûr, ce n'est pas par hasard, puisque justement votre sociologie et votre anthropologie...
Parce qu'il y a, une raison qui est une raison, comment dire, de démarche, de méthode. Je ne pense pas que l'on puisse faire de l'ethnologie de l'éternel présent. C'est-à-dire faire comme si il y avait une sorte de réalité fondamentale, quasiment immuable, de l'Africain ou de l'Amazonien d'ailleurs, ou de tel autre en Asie du Sud-Est. Ça n'est pas ça du tout. L'histoire est partout. L'histoire est partout, elle est différente, elle est plus ou moins intense, elle est plus ou moins coûteuse, elle est plus ou moins douloureuse, mais l'histoire est partout. Et si je reprenais une formule qui a ma préférence, je dirais que pour moi, l'histoire, c'est la lutte contre l'inachèvement des sociétés. Aucune société ne peut dire qu'elle est parfaite. Ou si elle a l'audace de le dire, alors elle tourne au totalitarisme qui affirme la pureté de ce qui est en place, que c'est le meilleur du meilleur qui a été réalisé et que l'histoire est finie. Déjà, l'histoire est finie. Et revient, thème qui revient d'ailleurs
régulièrement.
Et à propos de la modernité actuelle, avec Fukuyama aux États-Unis. Alors, vous le voyez, cette période-là, elle chamboule. Mais j'ai surtout chamboulé, je pense, pour avoir eu l'audace de publier, j'avais 30 ans, en 1951, pour publier dans les cahiers internationaux de sociologie, dont j'ai reçu l'héritage de Gurevitch, pour publier l'article relatif à la situation coloniale. Alors j'avoue que cet article, je dois le reconnaître, cet article, je savais qu'il ne plairait pas nécessairement, mais je ne pensais pas qu'il aurait cette force de mise en chamboulement, de mise en mouvement des réactions et des contre-réactions. Mais j'ai voulu montrer, dire à mes collègues, attention, ce que vous étudiez, ce que nous étudions, ce n'est pas une Afrique intemporelle, c'est une Afrique qui sort, qui commence à peine à sortir de la domination, c'est une Afrique qui a sa propre stratégie, sa propre histoire et ses propres stratégies pour faire face à la situation coloniale. Car moi, si vous voulez, Likia, moi ce qui m'a le plus ému dans mon contact avec l'Afrique, vous savez, de la passion que j'ai et puis des relations affectueuses qui me sont maintenues avec le nombre d'Africains, d'amis africains. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette capacité, c'est ce talent qui permet de réagir à la colonisation contre la puissance du système. Le dominer a des stratégies, le dominer a des ruses, le dominer a des moyens d'action. Et ces moyens d'action aboutissent sous les formes dont nous venons de parler, que nous venons d'évoquer. Et le dominé réagit sur le plan religieux. Si on lui confisque son discours politique historiquement constitué, alors il crée un discours politique ailleurs, dans un autre lieu. Et cet autre lieu, c'est le sacré, c'est la religion. Il utilise ce véhicule pour demander ce qu'il aurait pu demander en langage politique qui serait apparu plus rationnel. Il y a ça. Il y a ça, mais aussi, je me souviens d'une discussion avec un collègue, ça va nous éloigner de l'Afrique, mais un collègue du Collège de France, Paul Mus. Paul Mus, qui était un personnage hostile à la colonisation, bien qu'ayant été officier parachutiste pendant la guerre de la triste guerre du Vietnam. Mais Paul Mus était devenu spécialiste du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est. Et dans un livre assez étonnant, où il donne son commentaire de la guerre du Vietnam, il montre à quel point le colonisateur a pu être dupé par les habiletés du colonisé. Non pas par ce qui sera devenu ensuite la stratégie Ho Chi Minh, non, quelque chose d'avant qui reportait au rituel. Et pour lui, il y a plusieurs pages consacrées à cela dans sa sociologie du Vietnam, de la guerre du Vietnam. Il y a cette constatation que les colons français, les autorités coloniales françaises en particulier, n'est-ce pas, voient ces déplacements réguliers vers un certain petit lac du nord tonkinois. Il voit ça comme une sorte de pratique exotique, hein, une curiosité d'exotisme, alors qu'en réalité, ce sont des réunions où, à travers le langage du sacré, on prépare la revendication politique et l'action allant dans le sens de l'indépendance et de la reprise d'initiatives historiques. Et il y a cette espèce d'amusement figé qui consiste à dire « laissons-les croire, mais faisons ». Les faisons avec nos moyens, avec nos méthodes, avec nos langages. Ce que l'on oublie peut-être, c'est que la différence de culture peut être un abri aussi pour d'autres pratiques que des pratiques proprement culturelles, en l'occurrence des pratiques politiques d'indépendance. Eh bien, je dirais que en Afrique, celle qui vous concerne, qui m'a concerné comme chercheur et en affinité aussi, je dirais que l'abri a été les prophétismes, les messianismes, tous ces milieux, toutes ces expressions religieuses d'innovation qui ont servi à cacher ce qui n'a pas été reconnu au début. Et ensuite, lorsque l'administration coloniale a reconnu que ça pouvait être un véhicule politique, alors elle a censuré et elle a réprimé. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler. Il faut rappeler aussi, peut-être, que si j'ai pratiqué une science sociale un peu différente, c'est à l'Afrique que je le dois, et c'est à la manière dont elle s'est située par rapport au colonialisme, par rapport aux indépendances, et par rapport maintenant au poste, à la post-colonisation, comme l'on dit, n'est-ce pas ? Et c'est cela qui m'a conduit à avoir une autre démarche intellectuelle, d'autres exigences, pas nécessairement des exigences de polémiste à tout va, mais des exigences de critique dans le sens où il s'agit de dire les choses comme elles sont dans leur vérité, tout au moins dans cette vérité qu'il est possible d'atteindre.
Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là. C'est une très bonne conclusion, hein. Donc je vous laisse à d'autres. Je vais penser vous parler un peu du tiers-monde, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans la discussion.
Mais j'ai eu une vie un peu compliquée, hein. Un peu chargée.
Je voudrais simplement dire que la manière dont tu as interrogé Georges... Et la manière dont il y a répondu, c'est-à-dire à travers des expériences personnelles, mais tout à fait importantes, puisqu'à chaque fois, il était question de contextes importants, le Sénégal, le Gabon, la Guinée, le Congo, puis aussi des évocations du Kenya et du Ghana, de la Gold Coast. Il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est dit là, qui est une façon de répondre un peu à ce qu'a dit hier Frédéric Cooper, sur la question de 1960, quels étaient les possibles. C'est-à-dire que 1960, les possibles auraient été, par exemple, que non, on ne reconduise pas, disons, les frontières coloniales, etc., et qu'au contraire, il y ait des configurations autres. Des configurations multinationales, etc., etc., ou même que Senghor l'ait emporté, par exemple, sur Oufouette, dans le Caribien. Il me semble que, précisément, il y avait une pente très forte qui était déjà prise depuis Belle Lurette, c'est que les les colonies en question, et ça a à voir avec ce qu'il a dit à la fin, c'est-à-dire qu'au fond, les dominés ont développé des choses. Eh bien, il me semble que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire, que le Gabon, que le Congo, etc., avaient une existence, une consistance très forte dès les années avant les années 60, et que ça a commencé bientôt. Et que précisément les élites de ces pays, bien loin en effet, même s'il y a eu toute cette idéologie panafricaine qui aurait pu laisser penser qu'en effet d'autres choses, d'autres possibles étaient à l'œuvre, ces élites ont été des élites nationales. Et donc il y a eu là donc une véritable État-nation, en quelque sorte, qui se sont fabriqués, contrairement à ce qu'on raconte bien souvent sur les pays africains, qui ne seraient pas des États-nations comme les autres. Et donc au fond, la fin de l'Empire, au fond, c'est peut-être ça aussi, la fin de l'Empire, c'est qu'au fond, il y a des États-nations en face. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose, il s'est fabriqué de la pluralité nationale. Donc voilà ce que je mets en tout cas en discussion, puisque je pense que ça sera un autre débat, puisque c'est un sujet au fond d'actualité en même temps. Et donc voilà ce que je voulais dire pour conclure en tout cas, ou pour dire un mot en tant que président simplement, et afin que nos trois collègues, parce qu'ils ne sont pas quatre, hein, je crois qu'il y en a un qui manque, qui vont pouvoir faire des commentaires sur tout ce qui s'est dit ce matin. Voilà.
Bravo, bravo. Excuse-moi, Frédéric.